Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Poète du jazz, écrivain vagabond et chef de file de la Beat Generation. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Jack Kerouac.
Qu'est-ce que Jack Kerouac pense de Jean Kerouac? What do you think of yourself?
Oh, qu'est-ce que moi je pense
oui,
de moi-même?
Oui.
Je suis tanné de moi-même. Ben, je sais que je suis un bon écrivain, un grand écrivain. Je ne suis pas un homme de courage. Mais il y a une chose que je sais faire, c'est écrire des histoires.
Jack Kerouac, né Jean-Louis Kerouac, en français, sur le plateau de Fernand Séguin à l'émission Le Sel de la semaine, en mars 1967. Chef de file du mouvement Beatnik, fondateur de la prose dite spontanée, le romancier d'origine canadienne-française écrit de façon frénétique, automatique, au rythme du jazz, sa plus grande inspiration. Son roman phare, On the Road, est à l'image de sa vie, faite d'excès, de voyages et d'alcool. Un long paragraphe de 120 000 mots qui va secouer l'Amérique conservatrice d'après-guerre et qui deviendra l'ouvrage de référence des exclus du système.
Une première impression domine pourtant. Il est difficile de définir ce qui fait l'originalité de la Beat Generation, car désormais, tout y est pêle-mêle depuis que l'imagination du grand public s'est emparée de ce morceau de choix. Au petit groupe initial de poètes et d'artistes fervents est venue s'agglutiner la masse des inutiles désœuvrés, des fils et des filles de millionnaires déguisés en pauvres, et bien sûr, des touristes en mal de sensations neuves et d'exotisme à bon marché. Puis, avec les touristes, s'est abattue la foule des profiteurs. Au hasard des rues de Greenwich, nous avons vite retrouvé cette image de la Beat Generation, qui est déjà devenue un vieux cliché. Garçons barbus à cheveux longs, filles pâles et dépeignées, attablées pendant des heures dans les cafés, vacants, blasés, comme se forçant à charger un peu le rôle ingrat qu'ils semblent jouer. On organise un party où toutes les inspirations puissent se donner libre cours. Dans une pièce réduite où s'entassent, et grâce à la fumée et à l'alcool, on se sent proche les uns des autres. Et on danse jusqu'à l'épuisement au son du...
1959, le journaliste Pierre Nadeau à New York sur les traces de Jack Kerouac, un portrait critique de la Beat Generation, précurseur de la contre-culture américaine des années 60. Pour parler de cet écrivain mythique dont on souligne justement ces jours-ci le 100e anniversaire, mon invité, Daniel Lorrain, journaliste spécialisé en littérature. Bonjour Daniel.
Bonjour Maxime.
Sur le plan littéraire, pourquoi Jack Kerouac est-il si important?
Ben, d'abord, il faut dire que oui, son livre le plus célèbre, On the Road, sur la route, c'est vraiment un grand livre, mais il faut aussi savoir qu'il a signé quand même une vingtaine de livres. Il a publié non seulement des romans, mais aussi des poèmes, des récits, des essais. Et en fait, ce qu'on retient, c'est qu'il a bousculé l'ordre établi de la littérature dans les années 50 en pratiquant, entre autres, ce qu'il appelait lui-même l'écriture spontanée, donc cette écriture qui laissait place à l'improvisation, un peu comme en jazz, à une mise à nu des émotions. Donc, Kerouac a été toute sa vie un grand amoureux du jazz. Il se sentait proche du souffle de cette musique. En fait, il tentait de reproduire ce souffle dans l'écriture. En fait, il se voyait lui-même un peu comme un saxophoniste de l'écriture. Donc, il cherchait vraiment à mettre en forme le flux de la vie, si on peut dire. Et en cela, il a beaucoup, beaucoup influencé d'autres écrivains par la suite. Bien sûr, à cause de la forme qu'il a mise de l'avant, mais aussi, bien sûr, à cause de, ou grâce à son propos de liberté, de goût de l'aventure et goût du voyage.
Oui. Et vous, sur le plan personnel, je sais que vous l'aimez, vous êtes même allé en pèlerinage à Lowell, aux États-Unis.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fascine tant chez lui?
J'aime son authenticité, en fait. On sent que c'est un gars qui écrit avec son âme, avec ses émotions, avec son cœur. Et je dois dire que quand j'ai découvert Sur la route à l'âge de 19 ans, je pourrais dire même que ça m'a un peu influencé à moi-même aller pratiquer le voyage sur le pouce comme il le faisait souvent, aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Donc, il y avait aussi chez lui cette grande curiosité de l'autre, de l'ailleurs. Et en cela, vraiment, je peux dire dire qu'il a été important pour moi.
Oui, comme pour bien des jeunes, hein, souvent on découvre Jacques Kerouac au cégep ou bien à l'université. Alors parlons de ses origines, hein, puisque c'est important dans le cas de Jack Kerouac. Il est issu de deux cultures, américaine mais aussi canadienne-française.
Oui, donc il est né à Lowell, donc cette petite ville industrielle qui est située à peu près une quarantaine de kilomètres au nord de Boston. Et ce qu'il faut dire, c'est que malgré tous les déplacements qu'il a fait dans sa vie aux États-Unis, au Mexique ou même en Europe, il est revenu continuellement à Lowell, qui est vraiment devenu son port d'attache jusqu'à la fin de sa vie et qu'il va citer partout dans son œuvre. Donc ses parents, Léo et Gabriel, étaient tous les deux Québécois, catholiques, comme plusieurs habitants de Lowell, d'ailleurs. Et la plupart des Canadiens français, à l'époque, travaillaient dans les usines de textiles ou de chaussures. C'est le cas de la mère. Son père, lui, était imprimeur. En fait, quand on parle de l'enfance de Kerouac, outre le fait qu'il a grandi en français, c'est la mort de son frère. Gérard est mort à 9 ans, alors que Jack en avait 4. Ce petit garçon était atteint de fièvre rhumatismale très sévère. Il souffrait beaucoup. C'était un garçon très, très, très catholique qui disait qu'il allait bientôt monter au ciel. Et quand il est mort, ça a bien sûr affecté beaucoup la famille, en particulier la mère de Gérard, qui en a fait un saint et qui est resté un peu un modèle intérieur dans la tête de Jack Kerouac. Lui-même va être obsédé toute sa vie par la mort. Il va écrire d'ailleurs un livre hommage à son frère qui s'intitule Vision de Gérard. C'est un livre vraiment très touchant, empreint de lyrisme. En fait, c'est un de mes livres préférés de Kerouac.
Mmh. Oui. C'est intéressant parce que c'est une enfance qui est à l'image des centaines de milliers de Canadiens français qui ont grandi en Nouvelle-Angleterre, des ouvriers qui travaillaient dans des conditions pas faciles dans ces petites villes industrielles comme Lowell. Et c'est ce qu'il raconte lui-même, hein, Jack Kerouac, au sujet de son enfance, sur le plateau de Fernand Séguin, le sel de la semaine, c'est en 1967.
Nous aimerions savoir ce que c'était que l'enfance d'un Franco-Américain à Lowell. Comment ça s'est passé? Quelle sorte de famille vous aviez? Votre père, votre mère, vos frères, vos soeurs?
Mm-hmm. À Noël, on avait des petits quartiers canadiens.
C'est pareil comme rester au Canada. On mangeait des cortons, des tourquilles.
Puis on y allait des petites écoles parochiales.
Paroissiales, oui. Mm-hmm. Vous êtes allé à l'école française?
Oui, oui, Saint-Louis de France. Je ne parlais pas l'anglais avant j'avais 6 ans.
Vous n'avez pas appris l'anglais avant l'âge de 6 ans?
Oui.
Ça veut dire que dans votre famille, on ne parlait pas anglais?
On parlait français dans la cabane, dans la maison. Mm-hmm. Et c'est un quartier, tous des Français. La rue Beaulieu, puis la rue Boisvert, puis, puis le club, tous des vieux Français qui jouent au 4, qui jouent au pool. Puis... Le Noël, nouvelle année, ils faisaient des toutiers, puis criaient à pleine tête. Et une fois par année, ils descendaient des Canadiens de Québec dans des cellés avec des chiens, mm-hmm. dans la neige, pour célébrer. Ça veut dire ça? À Lowell.
Donc, francophone à l'origine, hein, même d'ailleurs, ses premiers mots, il va les écrire en français plutôt qu'en anglais.
En fait, on a découvert que les premières phrases de son roman phare sur la route, il les aurait écrites en français. D'ailleurs, après sa mort, on a découvert des textes de lui qu'il avait écrit directement en français, qu'il traduisait en fait par la suite. Il faut dire que l'écriture est arrivée très, très tôt dans sa vie. Il avait 10-11 ans quand il a commencé à forger ses propres histoires, influencées en partie par la littérature fantastique. Il y aura une bibliothécaire à Lowell qui va l'encourager à écrire, un prêtre aussi de sa paroisse dont il parlait dans l'entrevue précédemment. Et à l'âge de 14 ans, il imprime lui-même ses textes dans l'imprimerie de son père, où il va passer beaucoup, beaucoup de temps. Il va bientôt découvrir Joyce, Goethe, Melville. En fait, toute sa vie, il sera un grand lecteur. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'autre passion qu'il développe dès l'adolescence, c'est le football. Il est champion de football. Il va obtenir une bourse pour aller étudier à l'Université de Columbia, faire partie de l'équipe de football. Bon, ça ne va pas durer. Il va connaître toutes sortes de complications. Donc, il va abandonner l'université au bout de 2 ans, au grand désespoir de ses parents. Mais c'est là qu'il va décider de se consacrer vraiment à l'écriture. En fait, après avoir rêvé de devenir une célébrité au football, il rêve de devenir un écrivain célèbre et bien sûr, il rêve aussi de voyager, ce qu'il va faire assidûment toute sa vie.
Avec des amis fidèles, hein, parce qu'il va faire des rencontres déterminantes, Allen Ginsberg, William Burroughs, ils vont former ensemble ce qu'on appelle le noyau dur de la Beat Generation,
exact.
Qui se définit comment d'ailleurs? C'est quoi le beat?
Bien, en fait, au départ, quand ils se rencontrent, ces jeunes-là, ils sont dans la vingtaine. On est en 1944 à New York. Et au départ, ce qui les attire, c'est les boîtes de nuit de jazz, c'est de longues nuits à discuter, de littérature, de toutes sortes de choses. Ils ont en commun d'être provocateurs, irrévérencieux. Ils rejettent les normes établies, ils consomment pas mal de drogue, d'alcool. Et donc, ils ont cette passion pour la littérature. Ils rêvent tous les trois de devenir écrivains. Plus tard, en 1946, par exemple, il y aura Neil Cassidy qui va se joindre au groupe. Lui, c'est vraiment un baroudeur de première. Et donc, ils vont avoir ce groupe-là, une énergie très, très forte, tous les trois. Et ils vont être donc très influencés par le jazz, donc le beat, the beat generation, c'est aussi le rythme, l'importance du rythme dans l'écriture. Mm-hmm. C'est aussi, le mot beat fait référence, c'est Jack qui va parler le premier de la beat generation. Pour lui, ça fait référence à battu, écrasé, parce qu'ils se sentent exclus de la société américaine telle qu'elle fonctionne. Mais beat aussi, ça voudra dire plus tard pour Jack, qui s'intéresse vivement au bouddhisme, ça va référer à béatitude, si vous voulez.
Son roman célèbre, bien sûr, c'est On the Road, hein, sur la route, qui raconte les voyages, le vagabondage. C'est le roman qui va le rendre célèbre. Avant lui, il y aura Town and the City. Comment il accouche de ce fameux roman On the Road?
Oui, Town and the City, donc, qui paraît en 1950. On reconnaît son talent, mais c'est vraiment un petit succès d'estime. Seulement 400 exemplaires vendus. Donc, Jack est assez déprimé de cela. Il va se mettre à écrire de façon vraiment frénétique avec, On the Road. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà en 1947, il aspire à écrire un grand roman sur l'Amérique. Et on peut dire qu'en ce sens-là, ses projets de voyage sont tout à fait liés à son projet littéraire. Donc, c'est véritablement en 1948, hein, le livre ne paraît qu'en 1957, c'est en 1948 qu'il commence un premier brouillon de Sur la route avec l'idée de faire un grand roman sur l'Amérique. Il en parle comme déjà à l'époque d'un roman picaresque situé en Amérique et il évoque déjà l'écriture spontanée, l'esquisse, il parle du dripping de Jackson Pollock, évidemment de l'improvisation du jazz. Il a tout ça en tête quand il fait sa première version, laquelle aboutit vraiment, celle qu'il juge lui définitive, seulement en 1951. Et cette version-là, qui devient mythique, il la rédige en un temps record entre le 2 et le 22 avril 1951 à l'aide d'une machine à écrire sur laquelle est monté un long rouleau de papier ininterrompu.
Oui, ça fait partie, bien sûr, j'allais dire la légende, mais c'est vrai.
Hein, exact.
Dans ce cas-ci, donc, un roman qui sera écrit d'un seul jet en quelques semaines. Puis quand on parle de prose spontanée, vous l'avez bien expliqué, hein, c'est un peu comparable à un jazzman qui improvise sans s'arrêter tant qu'il a du souffle. En fait, le souffle, c'est l'écriture. Un exemple de
tout
cette prose, c'est en anglais, mais ça nous donne une idée, hein, ce qu'on appelle le beat, le rythme. Jack Kerouac lui-même, 1959, au Steve Allen Show, c'est Kerouac qui lit son propre roman, accoudé au piano.
Well, a lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time, at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of Evenfall, the great image of God with forefinger pointed straight at me. through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith.
Votre premier roman, The Town and the City, vous avez pris 3 ans pour l'écrire.
Oui.
On the Road, vous avez pris 3 semaines pour l'écrire.
Ben, j'ai découvert la manière spontanée.
Oui, spontanée. La prose spontanée de Jack Kerouac, c'est ça. C'est sa
marque. Quand tu commences une histoire, puis tu vas d'un bord, puis tu commences une histoire avec des hommes, tu n'arrêtes pas pour les effacer, hein? Mm. Tu continues.
Mais on raconte même que vous achetiez des. Non pas des feuilles de
ça
papier,
pas des changements.
Mais des rouleaux.
Les rouleaux, ça c'est pour obviate. Tout le monde fait ça.
Pour empêcher.
Empêcher de changer la page. Mm-hmm. Tu passes un grand rouleau, puis tu continues. Tu peux faire tes yeux fermés. T'en appelles tout comme ça.
Un long rouleau, un long paragraphe, hein? Parce qu'on va dire ça souvent de ce roman, que c'est un long paragraphe de 120 000 mots, On the Road. Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi ce roman? Qu'est-ce que ça dit?
Bien, c'est en grande partie autobiographique. C'est basé sur les voyages que Kerouac a effectués à travers les États-Unis et au Mexique entre 1947 et 1951 avec son pote Neil Cassidy. Alors, ils sont tous les deux friands de toutes sortes d'expériences. Ils nouent des amitiés passagères, font des rencontres amoureuses, se saoulent la gueule, se droguent, fréquentent les boîtes de jazz, multiplient les petits boulots un peu à travers ça. En fait, ce que ça montre, c'est que le but de leur voyage à tous les deux, c'est pas tellement la destination comme telle. Ce qui compte, c'est le mouvement lui-même, le fait de bouger, d'aller toujours vers l'avant, de faire toutes sortes de découvertes et d'expériences en chemin. Donc, dans ce roman-là, Jack apparaît comme le narrateur de l'histoire sous le nom de Sal Paradise, mais le véritable héros du livre, c'est Dean Moriarty. En fait, c'est vraiment sous ce nom-là, c'est Neil Cassidy, vraiment le grand, grand, grand ami de Kerouac qui devient en fait un héros, un gars excentrique qui trippe sur tout ce qui bouge, qui adore la musique, la littérature, etc. Une ode à l'épopée vers l'ouest, aux grands espaces, à la découverte de mondes nouveaux, ça témoigne vraiment d'une aspiration à une vie nouvelle. C'est un appel à la liberté. Je vous cite juste un petit bout du livre. Kerouac écrit... Une fois de plus, nos valises cabossées s'empilaient sur le trottoir. On avait du chemin devant nous, mais qu'importe, la route, c'est la vie. Alors, ce roman-là va vraiment être considéré comme l'emblème, le manifeste de la Beat Generation, vraiment un livre phare de la contre-culture aux États-Unis.
Oui, la liberté, hein, le territoire dans une Amérique qui est encore conservatrice parce qu'on est évidemment à l'époque d'après-guerre. Donc, un succès très rapide une fois que c'est publié, puis en même temps, c'est paradoxal parce que ça a été très long avant que quelqu'un se décide à le publier, ce fameux roman.
Ben, écoutez, entre 1951... quand il achève sa première version qu'il juge définitive, et 1957, la date de publication, le livre a été refusé à répétition par plusieurs éditeurs. Évidemment, Kerouac est découragé, mais en même temps, il décide de jouer le tout pour le tout et il devient extrêmement productif. Il va écrire dans l'anonymat presque complet pas moins de 7 romans inspirés de son propre parcours, qui va réunir ensuite sous le titre « Légende de Dulhuose ». Ça va rassembler plus d'un million de mots. D'ailleurs, il va dire que pour lui, il va comparer ça un peu à la recherche du temps perdu de Proust.
Ah oui.
Il va dire « Mon œuvre ne comprend qu'un vaste livre comparable à la recherche du temps perdu de Proust ». Et puis, ce qu'il va dire aussi plus tard, c'est qu'il va dire que lui... contrairement à Proust, il n'a pas écrit dans son lit, mais au pas de course, puisque effectivement, il écrivait très, très vite.
Oui.
En fait, c'est vraiment exceptionnel la fécondité dont il a fait preuve dans ces années-là. Mais oui, le problème, c'est qu'il n'est pas publié. Il se sent nié dans son être profond. Et quand la célébrité va arriver, quand on va dire qu'en 1957, qu'il a écrit vraiment un chef-d'œuvre, que c'est un moment historique dans la littérature américaine, lui va vivre plutôt mal cette célébrité qui arrive tout d'un coup parce que pour lui, il se dit « mais je n'ai plus besoin de ça maintenant. Moi, ce que Ce dont je parle dans Sur la route, ça s'est passé dans les années 40, au début des années 50. C'est déjà derrière moi et la Beat Generation n'existe même plus. Alors, qu'est-ce que ça me donne, tout ce succès?
Et d'ailleurs, il s'isole de plus en plus, hein? Bon, problème d'alcool. En fait, tout au long de sa vie, il se cherche un peu, il est tiraillé, rongé par l'alcool. Puis en même temps, c'est l'impression que c'est un paradoxe étonnant pour quelqu'un qui se dit libre sans attache. Réflexion intéressante ici, c'est de l'auteur, critique littéraire, journaliste André Major. C'était à notre radio, 21 mars 1969. Il a brièvement rencontré Jack Kerouac.
Ça aussi, c'est un peu étonnant parce qu'on se dit, si c'est un chef de file, puisqu'on en a fait un chef de file, il devrait avoir des idées, il devrait avoir un système, une doctrine, enfin, ou une vision du monde organisée, articulée. Mais il, comme il l'est physiquement, intellectuellement, il est instinctif. Il n'y a pas de, il y a rien de prémédité chez lui. Quand il dit quelque chose, c'est quelque chose qui est senti, qui est exprimé comme c'est senti, sans qu'il y ait un travail de fait sur sa pensée ou sa réaction. De sorte que ça explique peut-être un peu le décalage qu'il y a entre l'image qu'on a de lui, l'image que lui donne en réalité, et ça expliquerait aussi que si le monde romanesque qu'il crée est un monde de liberté, lui demeure, comment dire, ligoté ou enfin pris par des problèmes personnels desquels il n'a pas réussi à se libérer jamais. Et puis, constamment, sa recherche, c'est de créer quelque chose qui lui permettrait d'être libre. Mais une fois qu'il a dit ça, une fois qu'il a exprimé son désir, il ne s'accomplit jamais.
C'est intéressant parce que le monde réel de Kerouac, du moins à la fin de sa vie, il est assez fermé, hein?
Oui, mais en fait, il s'est accompli dans l'écriture, si je peux me permettre même. Hein? C'est là qu'il a mis toute son énergie et tout son cœur. Mais oui, vers la fin de sa vie, il voit presque plus ses amis, il boit de plus en plus, son corps le lâche, et donc il va mourir vraiment d'une cirrhose du foie. Très jeune, 47 ans, sans le sou. À l'époque, en fait, on dit que quand il est mort, il avait 69 $ dans son compte en banque.
Ah, ouais.
Alors, ça vous dit un peu aussi comment la déchéance, il était isolé de plus en plus. C'était vraiment terrible, terrible comment il a pu finir après avoir été, en fait, un chantre de la littérature et de la liberté aux États-Unis.
Oui, un écrivain mythique hein, qui va inspirer bon nombre d'artistes beaucoup plus tard, que ce soit des chanteurs, des auteurs en chanson. Il y a eu, bien sûr, Bob Dylan, Janis Joplin, Jim Morrison, bien d'autres. Chez nous, Richard Séguin, Pierre Flynn, Sylvain Lelièvre, qui ont tous chanté à leur façon Kerouac. D'ailleurs, on va se laisser en musique. Musique éponyme, chanson éponyme, Sylvain Lelièvre, Jack Kerouac. Mon invité, je rappelle, Daniel Lorrain, les journalistes spécialisés en littérature. Merci beaucoup, Daniel.
Merci. Au revoir, Maxime.
Voilà, ici Maxime Coutier. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Je vous souhaite une excellente soirée. À une prochaine.
T'avais l'air d'un bûcheron perdu dans sa légende de poète. Si je t'ai cru presque parrain, c'était peut-être malgré moi, juste à cause de ton accent d'un vieux mononcle des États. Je ne veux pas savoir pourquoi, pas plus loin qu'en 1920.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.